c'est le encore le temps de la grâce. La pleine rédemption est là. À notre place, Jésus a expié, est mort à Golgotha. Des foules affluent au Seigneur. Ils ont trouvé le salut, la paix de leur âme et le repos. À toi, agneau de Dieu, sois la gloire. Ton sacrifice est accompli. Pour nos fautes et nos péchés, de nos fautes et nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, roi dans ton royaume. Aucun homme et aucun nom sur terre est semblable au tien. Le trône de la grâce est aspergé du sang du sacrifice. Et le pécheur pardonné. Dieu ne se souvient plus de ses péchés. L'amour du Sauveur est manifesté et a tout accompli pour nous. Le peuple de la Nouvelle Alliance est délivré par son sang. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. Venez, vous qui êtes égarés et sans aide. Pour vous, la paix et le secours est là. Ce que le monde ne peut pas vous offrir, vous le trouvez à Golgotha. La paix pour les chemins sans issue et pour les cœurs affligés, la force pour porter la croix et la paix pour les cœurs vides. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien, est comparable au tien. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Mes pieds sont placés sur le chemin étroit. Dans le monde meilleur, cette grâce, je veux lui faire entièrement confiance. Même si Je passe par des menaces et des tempêtes. Seulement par la grâce de Dieu, je pourrai surmonter tout. Délivré du péché, je peux aller continuellement de l'avant. Ne plus douter, rester attaché à cette position. Par la grâce de Dieu, je suis prêt à ne pas reculer devant quoi que ce soit, mais avec l'épée et le bouclier, je veux courageux aller de l'avant dans la bataille et résister à l'ennemi et ses malices et regarder au Seigneur. Par la grâce de Dieu, je me tiens ferme, libéré du péché, allant continuellement de l'avant. Plus de doutes, courageux, attaché au Seigneur. Par la grâce, j'ai le témoignage de l'Esprit qui me fait de tout mon cœur louer Jésus. Vive pour lui, consacré entièrement à lui, de tout mon être. Le suivre fidèlement est déjà un gain présent. Par la grâce de Dieu, je me tiens ferme, libéré du péché, allant continuellement de l'avant, sans doute, fermement attaché à lui. Par la grâce, je suis libéré de la peur. Car le Seigneur nous accorde le courage nécessaire. Sa grâce me conserve dans l'humilité. Si je fais ce qui lui est agréable, c'est par la grâce de Dieu que je pourrai surmonter tout. Libéré du péché, continuellement à aller de l'avant. Sans doute, plus de doute. Restez attaché ferme à la grâce. Car la grâce me conduit avec main joyeuse. Par la grâce, je regarde à Jésus, à l'espérance vivante. Prenant part à l'arbre de vie, et à l'édifice dans lequel Jésus m'a joint pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, je me tiens libéré du péché, allant de l'avant, restant attaché fermement à lui, car la grâce me conduit avec main élevée. Seulement par la grâce de Dieu, je me tiens libéré du péché, allant de l'avant, sans douter, je reste ferme, car la grâce me conduit à main élevée. À cette émission d'observation biblique de la parole avec Frère Frank, nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entiers qui se sont connectés. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la parole révélée de Dieu. Que le Seigneur bénisse Frère Frank, qu'il le conduise et guide à dire par son Esprit Saint ce que Dieu veut nous dire. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs. Avant que Frère Frank ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée d'Éphésiens, chapitre 1, verset 11, du verset 11. En lui, Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons donc aussi été rendus participants de la possession du salut, ayant été prédestinés à cela selon le dessein de celui qui accomplit tout selon le décret de sa volonté. Le décret de sa volonté. Nous devons précisément servir à la louange de sa gloire. Nous qui avons mis d'emblée notre espérance en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, et après l'avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, qui est le gage et la garantie de notre héritage pour la rédemption de son Église qu'il s'est acquise à la louange de sa gloire. S'il te plaît, frère Frank. Je voudrais moi aussi saluer tout le monde très très chaleureusement. Nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur de nous permettre d'avoir les émissions en direct et d'être ainsi reliés à Dieu et les uns aux autres par la parole et l'esprit, et que le Seigneur nous accorde la grâce d'être, oui, d'avoir été inclus dans le plan de salut qu'il met à exécution, d'avoir été inclus dans le plan de salut qu'il met à exécution. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction que le Seigneur Dieu accomplit toutes choses selon le décret de sa volonté. Et nous sommes laissés inséré dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et bienheureux. Et tout à la fin, la volonté de Dieu est que l'époux céleste viendra prendre auprès de lui à la maison une épouse terrestre. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu s'est donné tout ce mal pour une seule chose, à savoir que tous ceux qui ont été inclus dans son plan de salut avant la fondation du monde seront avec lui, auprès de lui, dans la gloire. Dieu savait qui l'accepterait et qui le refuserait. Dieu savait qui croirait et qui ne croirait pas. Notre tâche est de proclamer la sainte parole, d'exposer tout le dessein, le conseil de Dieu à l'humanité, puis La parole elle-même accomplira sur ceux qui la croient ce pourquoi elle a été envoyée. Aujourd'hui, il s'agit de ce jour particulier, de cette expérience unique qui s'est produite à la Pentecôte autrefois. Nous regardons, n'est-ce pas? Nous jetons un regard rétrospectif sur tous les événements, les expériences, sur tous les événements, expériences et vécus de l'histoire du salut, tout d'abord avec notre Seigneur, sa naissance, son ministère, ses souffrances et sa mort. Nous regardons la résurrection de Jésus-Christ. Nous regardons le fait que notre Seigneur, nous regardons le fait que notre Seigneur a passé 40 jours après la résurrection avec ses disciples pour leur parler du royaume de Dieu et qu'il a ensuite fait la promesse d'attendre et d'expérimenter, de vivre l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit à Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est principalement de cela que nous allons nous occuper. C'est la Pentecôte, le plus grand événement de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous aimerions lire quelques passages bibliques à ce sujet. Je t'en prie. Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 8. Mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons ici la puissante promesse d'être rempli non seulement du Saint-Esprit, mais en même temps d'être revêtu de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit qui opère tout en tous les véritables croyants. Cette promesse est très, très importante. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Soyons honnêtes, en nous-mêmes, nous sommes sans puissance. Nous sommes impuissants. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu par grâce la puissance, le revêtement, l'autorité divine du Saint-Esprit. Et nous en sommes reconnaissants, s'il te plaît. Nous lisons de Luc, chapitre 24, verset 49. Luc, chapitre 24, verset 49. Et sachez bien que je fais venir sur vous les biens de la promesse de mon Père. Mais vous restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que le Seigneur soit remercié. Encore une fois, l'accent est mis sur le fait que nous devons tout d'abord être revêtus de la puissance d'en haut. Nous savons tous qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé, c'est déversé, et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est devenue effective et agissante dans tous les croyants. Et nous savons tous que tout a été fait par la puissance du Saint-Esprit depuis le commencement du Nouveau Testament. Tout a été fait et s'est passé par la puissance du Saint-Esprit. Même lors de la naissance du Sauveur, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Puisse-t-il nous être donné par Dieu d'être réellement revêtus de cette puissance divine. Et nous le voyons tout de suite, revêtu pour pouvoir accomplir le ministère, accomplir le service. S'il te plaît, nous lisons quelques passages de 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4. Il y a donc diverses sortes de dons de la grâce, mais un seul et même esprit. Rendons grâce au Seigneur. Et ensuite, les 9 dons de l'esprit sont énumérés qui ont été placés dans l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Saint-Esprit. La plupart s'arrêtent au fait, au fait que le parler en langue a été utilisé. Et c'est tout simplement merveilleux de savoir que Dieu n'a pas seulement voulu donner a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit, mais que aussi notre langue doit être mise au service de Dieu, à sa disposition, pour désormais être utilisée seulement par lui. Et c'est pourquoi il est écrit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit, ce ne sont pas des oreilles ou tout autre membre qui apparurent pénétrés de feu, mais des langues leur apparurent comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Ainsi, si nous nous souvenons que la langue est le pire membre de notre corps, le pire, comme l'apôtre Jacques l'a si clairement décrit. Et Dieu a donné ici, dès le commencement, lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, non seulement les neuf dons spirituels, mais aussi une nouvelle langue qui a été purifiée par le feu de Dieu, qui est purifiée par le feu de Dieu, afin que les neuf dons spirituels puissent être exercés sous la conduite directe du Saint-Esprit pour la bénédiction de toute l'Église. Vous pouvez lire tous ces versets dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Le même et seul Esprit de Dieu. Le même, le seul Dieu, et donc le même et seul Seigneur, le même et seul Dieu, opère tout en tous ceux qui ont vraiment cru et qui ont reçu l'accomplissement de la puissance d'en haut, d'être remplis de la puissance d'en haut, d'être revêtus de la puissance d'en haut, qui ont reçu cette expérience. Poursuivons la lecture d'un autre chapitre. Nous lisons dans Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22. Versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, en revanche, réside dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la constance. Contre de tels fruits de l'esprit, la loi ne peut porter aucune accusation. Rendons grâce au Dieu Tout-Puissant. D'une part, les neuf dons spirituels, les neuf dons de l'esprit, d'autre part, les neuf fruits de l'esprit qui doivent être là, présents. Celui à qui Dieu fait vraiment grâce, celui qui est réellement né de nouveau, pour une espérance vivante. Et nous devons prendre à cœur ce que notre Seigneur a fait comme première chose avec ses disciples après sa résurrection. Il a soufflé sur eux et a dit, recevez l'Esprit Saint. C'était la toute première chose. Ils furent ensuite remplis et revêtus plus tard. Mais celui qui revient à la Genèse et il lit que le Seigneur Dieu insuffla le souffle de vie à Adam qui devint une âme vivante. Ici, juste après la résurrection, le Seigneur a soufflé sur les siens pour qu'ils puissent devenir une nouvelle créature, une nouvelle âme par grâce. Et a ensuite fait la promesse qu'ils doivent attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus ensuite de la puissance d'en haut. Frères et sœurs, il faut le dire simplement par souci de vérité. S'il est écrit dans le prophète de l'Ancien Testament, oui, dans le prophète Joël, que le Seigneur Dieu répandrait son esprit sur toute chair, et que nous pouvons dire maintenant que depuis la Pentecôte, nous vivons dans le temps de la grâce dans lequel le Saint-Esprit est à l'œuvre sur toute la terre. Mais alors, par souci de vérité, nous devons dire, nous regardons en effet en arrière sur l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Et j'ai pris le temps de lire tous les chapitres des Actes des Apôtres d'un seul coup, d'un seul trait, pour savoir encore une fois à fond ce qui s'est passé et comment est-ce que les choses se sont passées à l'époque des apôtres. Et que nous devons maintenant être ramenés au commencement, qu'une restauration complète, totale, doit avoir lieu. Nous connaissons tous, en effet, les promesses que le Seigneur a faites par grâce. Et il faut dire chaque fois à nouveau que le retour de Jésus-Christ doit être souligné dans chaque prédication. Car notre Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre auprès de moi, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes effectivement crucifiés avec Christ, comme Paul l'explique très clairement, et peut alors dire, ce n'est plus moi qui vis désormais, mais c'est Christ lui-même qui vit en moi. Et si nous en venons alors directement à ce thème du baptême de l'Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit, nous pouvons tout de même dire que depuis les jours de la réformation, Dieu a fait de grandes choses, un réveil après l'autre. Mais ensuite est venu le réveil de la Pentecôte. Et l'année 1906 est particulièrement mise en avant, est particulièrement soulignée lorsque l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu à Los Angeles. On peut lire à ce sujet. C'est ainsi qu'à notre époque, l'action du Saint-Esprit a recommencé, a nouvellement commencé. La repentance, la foi et le baptême ont déjà été annoncés, les vérités bibliques, la justification par la foi, la sanctification par la foi, la sanctification. Ce qui est écrit dans la Bible a déjà été prêché, mais ensuite, une nouvelle période a commencé. Et frères et sœurs, nous pourrions aller dans les années 1909 en Angleterre, au pays de Galles, où l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu, nous pourrions aller à Kassel la même année, en 1909, où le Saint-Esprit est tombé. Nous pourrions aller ici près de Krefeld, à Mülheim, où l'effusion du Saint-Esprit dans une église luthérienne où Jonathan Paul, qui prêchait, a dû soudainement cesser de prêcher, pas arrêter de prêcher parce que toute l'assemblée fut remplie du Saint-Esprit. Nous avons en effet été familiarisés, n'est-ce pas, avec ce que Dieu a fait à notre époque. Mon témoignage est connu de tous. J'ai été baptisé en 1948 dans une église baptiste, puis en 1949 dans une église pentecôtiste à Hambourg, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai donc été familiarisé avec tout ce qui s'est passé en Allemagne, en Europe et dans le monde entier. Ensuite, à cela s'ajoute que le 11 juin, et nous sommes justement arrivés maintenant au mois de juin, c'était donc le 11 juin 1933 où frère Branham a reçu la directive spéciale d'apporter le message qui précéderait la deuxième venue, qui précéderait la deuxième venue de Christ. Ensuite, je repense au 11 juin 1958, lorsque frère Branham m'a dit à Dallas, Texas, frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Frères et sœurs, nous ne parlons pas seulement du baptême de l'Esprit et d'être rempli de l'Esprit. Nous ne parlons pas seulement des 9 dons de l'Esprit, des 9 fruits de l'Esprit. Nous voulons que tout cela se réalise maintenant, que Dieu restitue tout, restaure tout, tout ce qui était présent, était là au commencement, doit être et sera là à la fin. Et nous pouvons compter sur une puissante effusion du Saint-Esprit, car c'est ainsi que le Seigneur parle par le prophète Zacharie. Ce n'est ni par la puissance d'une armée, ni par la force, mais par mon esprit que cela se fera. Et les Saintes Écritures parlent de la pluie, de l'avant saison et de la pluie de l'arrière saison. Et nous avons les plus précieuses promesses dans la parole de Dieu concernant ce que Dieu fera. Et oui, fera par grâce parce qu'il l'a promis. Et autant, il est certain qu'au commencement, chaque promesse que le Seigneur avait faite à l'Église a trouvé son accomplissement Autant il est certain que cela se produit maintenant. Chaque promesse trouvera son accomplissement. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, ici, il faut vraiment faire une petite pause pour réfléchir à ce qui se passe à notre époque dans le monde entier. À savoir, dans le mouvement pentecôtiste et charismatique qui se réclament tous de la parole selon laquelle le Seigneur déversera son esprit sur toute chair. Et tous ont malgré tout leur propre doctrine, leur propre confession de foi, suivent leur propre voie et n'ont absolument pas reconnu ce que Dieu fait à notre époque. S'il te plaît, relis le verset encore une fois. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et ensuite, c'est la promesse. Et ensuite, les fils et les filles, les serviteurs et les servantes sont particulièrement soulignés, mentionnés. Les fils et les filles, en tant que l'Église du Nouveau Testament, les serviteurs et les servantes, en référence à Israël. Il est vraiment important que nous soyons maintenant conduits par l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Et je le dis avec une grande douleur. J'ai personnellement vécu tous les grands évangélistes. J'ai été en partie leur traducteur dans différents pays. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce qui compte maintenant, ce n'est pas seulement de parler en langue, de parler de la Pentecôte et de créer une atmosphère avec de la musique. Ce n'est plus de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de dire que tous ceux qui sont vraiment conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu, et tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu dans les promesses destinées à cette période, à ce temps dans lequel nous vivons, ils ont fait l'expérience avec Dieu, c'est vrai. Mais malgré tout, suivent leur propre voie. Permettez-moi de le dire aujourd'hui en toute clarté. Nos frères, au commencement du Nouveau Testament, ont commencé leur prédication, leurs épîtres, avec les promesses données dans l'Ancien Testament. Pensez, s'il vous plaît, à Marc, chapitre 1. Le message du salut de Dieu, tel qu'il l'a fait annoncer par ses saints prophètes. C'est ce qui est écrit dans Marc, au premier chapitre. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Viennent ensuite deux passages bibliques de l'Ancien Testament. Il appuie directement ce qu'il vient de dire, tout de suite avec les Écritures, dans Marc 1, du verset 1 au verset 3. Ensuite, le passage biblique qui faisait référence à Jean-Baptiste et à son ministère est immédiatement mentionné. Ésaïe 40, verset 3. Une voix retentit dans le désert. Et en second lieu, immédiatement, Malachie 3, verset 1. Ces deux passages bibliques sont mentionnés par Marc dans sa lettre, dans les trois premiers versets du premier chapitre. C'est bien de cela qu'il s'agit. La conduite du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, bien-aimés, nous devons ouvrir la Bible. Nous devons lire ce qui est écrit ici. Ce qui était écrit ici. Mais j'ai eu cette pensée que tous les frères du Nouveau Testament se référaient à l'Ancien, que les apôtres et les prophètes étaient en accord. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? Ayant cette pensée, j'ai pris l'épître aux Romains, et je l'ai lu du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre sans m'arrêter. Sans interruption, sans m'arrêter, je ne sais pas si ça a duré 4 heures ou plus, mais en tout cas, j'ai lu les épîtres aux Romains d'un trait, et c'est ce que nous avons fait dans le bureau, et nous avons compté les passages bibliques que Paul a mentionné dans cette seule épître aux Romains, tirée de l'Ancien Testament. On a compté combien de passages Paul a utilisé. Il s'agissait de 63 ou 65 passages bibliques. 65 passages bibliques. Cet homme de Dieu a utilisé l'Ancien Testament, qui était les Saintes Écritures de l'époque, dans ses lettres à l'église de Rome, pour dire ce qu'il devait dire dans le Nouveau Testament en se basant seulement sur ce qui avait déjà été prédit et écrit dans l'Ancien Testament. Oh, j'ai commencé à rendre grâce, à louer, à exulter et à remercier Dieu le Seigneur. Que nos frères soient allés directement aux choses importantes, au commencement déjà, et qu'ils n'ont pas seulement comme ça, ils ne se sont pas seulement contentés simplement de prêcher comme ça, mais qu'ils soient allés à ce qui était écrit dans les prophètes et à ce qui s'était passé dans leur temps comme accomplissement de ce qui était écrit dans les prophètes et qu'il nous l'ait ensuite rendu. Et maintenant, nous revenons encore une fois à ce verset énorme et à ce verset puissant. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont des fils de Dieu. Ceux-là sont nés de Dieu. Frères et sœurs, qui aujourd'hui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Quel prédicateur commence sa prédication avec l'Ancien Testament, avec la parole des prophètes, et continue ensuite en montrant encore et encore et encore comment les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Cela aussi peut être dit et redit que Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie qui retournerait de nouveau le cœur des pères vers les enfants pour créer un peuple bien préparé pour le Seigneur, comme Jean-Baptiste et de son ministère dans Luc chapitre 1, versets 16 et 17. Il est attesté que c'est par son ministère que les pères de l'Ancien Testament ont été amenés à la foi des enfants du Nouveau Testament. Luc en parle dans le premier chapitre et écrit ensuite pour préparer un peuple agréable au Seigneur. Et ne mentionne effectivement que le seul passage biblique de ce seul verset, à savoir qu'il tourne le cœur des pères vers les enfants. Il ne mentionne que cette partie-là du verset. Et c'est tout. Il a classé bibliquement. À l'époque, il n'avait pas le droit de lire le deuxième passage, la deuxième partie. Et il tournera le cœur des enfants vers les pères. Je peux, je dois le lire aujourd'hui parce que cette deuxième partie-là est devenue vérité grâce à l'Élie de notre temps, grâce au ministère de frère Branham. C'est ça la conduite de l'Esprit. Les cœurs des enfants de Dieu ont été aujourd'hui ramenés à la foi de nos pères. Et je le dis, et cela, dans un mandat divin de la part de Dieu, comme nos frères au commencement, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, tous ont témoigné dès le commencement ce que Dieu a promis et qui s'est ensuite réalisé. Et tous ceux qui sont de Dieu entendront la parole de Dieu. C'est écrit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont véritablement introduits dans toute la vérité de la parole. Encore une fois, la comparaison avec l'époque actuelle. Plus de 555 millions de personnes sur Terre prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Et ils ont leur réunion charismatique. Ils prient pour les malades. Ils font comme si tout allait bien, comme si tout était en ordre et qu'ils font partie Dieu et qu'ils seraient une partie du royaume de Dieu et qu'ils font partie du royaume de Dieu. Ils n'ont même pas reconnu l'appel de Dieu, les promesses de Dieu pour ce temps, à savoir que tout a été ramené au commencement, même du point de vue de l'enseignement doctrinal. Tous sont restés dans les doctrines de la Trinité, dans le baptême de la Trinité. Ils sont vraiment restés dans tout ce qu'ils ont établi pour eux-mêmes comme confession de foi lors de leur fondation. Ils y sont restés jusqu'à aujourd'hui. Qu'il s'agisse des luthériens, des wesleyens, des baptistes, des luthériens, des wesleyens, des baptistes, et toutes les communautés de foi, toutes sont restées dans ce qui a été établi et fixé dans leur confession de foi au moment de leur fondation. Mais Dieu a accordé la grâce d'apporter un appel à sortir, une correction que Dieu n'est pas, que Dieu n'est pas composé de trois personnes éternelles, qu'il n'y a pas trois tout-puissants, trois omniprésents, mais un seul Dieu éternel, tout-puissant, qui s'est révélé à nous dans le Nouveau Testament en tant que Père dans les cieux, dans le Fils sur la terre, dans l'Église par le Saint-Esprit. Un Dieu manifesté de différentes manières afin de mener à bien son propre plan de salut, afin d'accomplir son propre plan de salut. Il en va de même pour le baptême. Pas une seule personne n'a été baptisée dans la formule trinitaire au temps biblique. Pas une seule fois le mot Trinité n'a été prononcé par un prophète ou un apôtre. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Toutes les doctrines auxquelles on croit partout aujourd'hui sont sorties de la bouche des prophètes ou des apôtres. Tous avancent dans leur propre foi. Mais nous sommes revenus à la foi dont il est écrit: un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, dont il est écrit: combattez pour la foi qui a été transmise aux saints, une foi pour toutes. Et que tous les prédicateurs aient un jour l'humilité de lire, soit humble pour lire qu'il n'y a pas eu un seul acte dans la formule de la Trinité, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. S'il vous plaît, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous au dernier moment, avant le retour de Jésus-Christ, sous la sainte et précieuse parole de Dieu, afin qu'il puisse être dit à nouveau, et il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain. Quelle église est aujourd'hui? Quelle église est aujourd'hui dans l'enseignement des apôtres? Une fois de plus, je voudrais le dire clairement. Dieu a appelé frère Branham à notre époque pour apporter le saint message divin originel, pour remettre tout en place, rétablir toutes choses comme c'était au commencement. Et alors, oui, la fin devait ensuite venir. Et nous sommes effectivement arrivés à la fin
du temps de la grâce et puisse non seulement tous les prédicateurs, mais aussi tous ceux qui se disent croyants dans toutes les communautés, dans toute la chrétienté, puissent tous ceux qui veulent être présents à l'enlèvement, qui veulent avoir part à la première résurrection, qui veulent être au festin des noces de l'agneau, puissent-ils tous reconnaître qu'il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu ni dans l'Église du Seigneur. Nous avons voulu le dire dès le commencement. Le Saint-Esprit a été répandu dans l'Église le jour de la Pentecôte. Et puis, nous avons lu au sujet des 9 dons de l'Esprit. Et ensuite, nous avons lu au sujet des 9 fruits de l'Esprit. Oubliez donc tout le reste. Revenez à Dieu. Lisez ces passages bibliques et posez-vous la question suivante. Est-ce que cela est le cas avec moi, avec l'Église où je vais? Est-ce que 1 Corinthiens 12 s'applique à nous en tant qu'Église? Est-ce le cas avec nous? Est-ce que cela s'applique aux frères qui servent? Est-ce le cas avec eux? Il suffit simplement de regarder dans la parole et que chacun le fasse et fasse un examen personnel. Car, je le répète, par l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église, les hommes n'ont plus le droit de déterminer quoi que ce soit dans l'Église. Seulement le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit détermine ce qui se passe dans l'Église. Ce qui a été enseigné doit être enseigné à nouveau aujourd'hui. Ce qui s'est passé au commencement doit se produire à nouveau aujourd'hui. Les hommes n'ont absolument rien à déterminer dans le royaume de Dieu. Car ils construisent et bâtissent de toutes manières leur propre royaume dans leur propre communauté. Mais le Seigneur lui bâtit son Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Il n'y a jamais eu une période aussi grave, aussi à prendre au sérieux au cours des 2000 ans, aussi grave au cours des 2000 ans de l'Église du Nouveau Testament que celle que nous vivons actuellement. Nous voyons que la prophétie biblique, que les prophéties bibliques s'accomplissent dans le monde entier, pas seulement sur Israël, sur les nations, et nous entendons, pas seulement sur Israël, mais aussi sur les nations, et nous entendons toutes les nouvelles quotidiennes, et attendons déjà la prochaine mauvaise nouvelle qui va arriver. Les prophéties bibliques s'accomplissent sur toute la terre, avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe, tout a été prédit et tout se produit. Et notre Seigneur a dit, quand tout cela arrivera, relevez la tête car votre rédemption approche. Mais avant que la rédemption du corps, de notre corps, puisse avoir lieu lors du retour de Jésus-Christ. Il faut qu'une épouse soit préparée pour l'époux. Car il est écrit ainsi. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin d'une blancheur éclatante. C'est ainsi qu'il est écrit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ce n'est pas toute la chrétienté qui dit, viens, mais le Saint-Esprit et l'Église épousent. Et nous savons bien que dans Matthieu 25, il est question de l'époux. Notre Seigneur est l'époux et son Église est l'épouse. Et c'est pourquoi, avant le retour de Jésus-Christ, maintenant, tout doit être ordonné de manière biblique dans l'Église du Dieu vivant. Et nous croyons que le Seigneur accordera aussi à tous les frères qui servent sur toute la terre entière la grâce de lire entièrement les Actes des apôtres et que nous serons et que ainsi nous serons tous amenés ensemble à rechercher et à trouver le Seigneur dans la prière sincère et ardente par rapport à ce qui y est écrit et à le vivre et à l'expérimenter de manière toute nouvelle. Beaucoup attendent le baptême de l'Esprit et je vous le dis, le Seigneur accomplira tout et nous vivrons l'action la plus puissante de l'Esprit. Et alors, tout redeviendra comme au commencement. Et alors, le Seigneur reviendra nous prendre à la maison. Puissent tous, dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, que tous soient bénis. Et que tous puissent trouver grâce devant Dieu et prendre à cœur ce qui est écrit sept fois dans Apocalypse 2 et 3, à savoir écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, dans tous les peuples, dans toutes les langues, à l'Église de Jésus-Christ. Mais dans le monde entier, ce sont bien des églises qui écoutent ce que l'Esprit a à dire aux églises. L'Écriture s'est accomplie sous nos yeux. Dieu a envoyé le prophète, son prophète, qu'il avait promis. Nous pouvons tous lire et nous sommes reconnaissants au Seigneur, Dieu, de nous avoir ouvert les yeux, le cœur, la compréhension, afin que nous puissions voir l'Écriture dans son accomplissement et en faire l'expérience par la grâce. S'il vous plaît, croyez et soyez convaincus de cela, que le Seigneur accomplira en nous chaque promesse qu'il nous a faite. Nous qui croyons les promesses, nous qui les croyons. La foi est toujours ancrée dans les promesses et conduit à leur accomplissement. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous encore pour la prière. Frère Borg va encore remercier. Père céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue clairement. Ce matin, au début, au commencement, tu as répandu ton esprit sur ton peuple à Jérusalem. Nous te prions de répandre ton esprit encore une fois sur ton peuple à la fin du temps de la grâce. Que tous les dons de l'esprit soient manifestés dans l'église du Dieu vivant. Que tous les fruits de l'esprit soient personnellement présents dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Je te rends grâce, je te remercie pour ce que tu as fait en nous, pour nous. Nous levons les yeux vers toi, remettons tout entre tes mains et te remercions. Bénis tous les auditeurs, tout ton peuple dans le monde entier. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. 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 Quand le son de la trompette retentira, quand l'appel se fera entendre à haute voix par les vallées, les montagnes, et que cet appel retentira jusqu'à dans les sépulcres, quand l'époux dans sa beauté apparaîtra pour prendre son époux, pour prendre son épouse, qu'il la prendra auprès de lui, elle ira à sa rencontre dans les airs, à cri de joie, merveilleusement transfigurée dans sa lumière, merveilleusement transfigurée dans sa lumière. L'appel retentira, les morts ressusciteront, les morts en Christ ressusciteront, transfigurés dans sa lumière. Quand il reviendra, apparaîtra dans les airs, et ceux qui l'ont aimé ici ressusciteront. Dans sa grande victoire, quand le corps et l'âme unis pourront plus mourir, comme ils crieront de joie quand ils verront sa face glorieusement transfigurée dans sa lumière, glorieusement, glorieux transfiguré dans sa lumière, glorieusement transfiguré dans sa lumière. L'appel retentira. Les morts en Christ ressusciteront, glorieux, transfigurés dans sa lumière. Ce qui était semé dans la faiblesse ressuscite en force. Le cantique des rachetés retentit pour celui qui a fait de grandes choses. Quand le matin luira, et que le jour en or se lèvera, comme ils crieront de joie partout, ceux qui seront pour toujours éternellement ensemble, glorieusement transfiguré dans sa lumière, glorieux transfiguré dans sa lumière, quand l'appel retentira et que les morts en Christ ressusciteront, glorieux transfiguré dans sa lumière.